Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est beau micro, ce soir on va parler de plein de choses et on va surtout parler de Mickey. Attention, c'est parti pour le générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. C'est beau micro, on va vous envoyer directement dans votre gentil petit cerveau les meilleures images de la BD franco-belge, du manga et du comics par le truchement des ondes radiophoniques. Vous pouvez nous suivre aussi en direct sur YouTube, c'est un peu le bazar, mais normalement ça marche. Voilà. Donc si vous voulez nous écouter, écoutez-nous sur le 101.5. Si vous voulez voir ce qu'on fait, bizarre à dire comme ça, eh ben vous pouvez aussi vous connecter directement sur YouTube, sur la les caisses de Seb. Pas la caisse de Seb tout de suite, mais plutôt le site de Radio G, puisque c'est celui-là qui va fonctionner. Voilà. Donc je ne suis pas tout seul, je suis bien entendu, comme vous l'avez entendu, en compagnie de Fabien. Ça va Fabien ?
Ça va très bien, bonne année à tous.
Bonne année, meilleurs vœux. Je suis aussi en compagnie de Florence, ça va Florence ?
Ça va très bien aussi, merci, meilleurs vœux également.
Et puis en compagnie de Bruno, ça va Bruno ?
Ça va très bien, Happy New Year, hein. Je le fais anglo-saxon forcément.
Ah yeah. Ouais, en mode rocker. Ce soir justement, tu vois, on va parler de plein de choses en mode rock et on va parler aussi un peu de Mickey. Voilà, puisque ce soir on va avoir une rétrospective de toute la BD rock de l'année dernière, tout ou presque. Non, c'est vu la pile de bouquins, oui, je dis toutes.
On va dire que c'est presque tout.
C'est presque tout. Et puis on va avoir l'occasion d'échanger avec un ex-auteur angevin, Dave, directement par téléphone, pour la sortie de Mickey et le roi des pirates aux éditions Glénat. Puisqu'on aura une petite interview, voilà. C'est un copain, Glénat nous a pas envoyé le bouquin, mais ça nous empêchera pas d'en parler, puis d'en dire du bien. Voilà. Est-ce qu'on commence par les news, Flo ?
C'est parti.
Allez, c'est parti.
Donc le 17 et 18 janvier prochain aura lieu au Centre des Expositions du Mans, dans la Sarthe, Geek Life. Alors Geek Life, c'est un festival de pop culture grand public. C'est un rendez-vous incontournable pour les fans de manga, jeux vidéo, K-pop, univers geek, cosplay et culture japonaise. Il y aura une soixantaine de stands avec des animations très variées. Vous pourrez assister à des concerts de K-pop, tambour japonais, et il y aura Bernard Minet, icône du Club Dorothée, le samedi à 15h.
Trop immanquable.
Vous pourrez venir aussi à la rencontre de cosplayers vêtus d'incroyables costumes ou encore jouer avec des consoles en libre accès.
Ça, c'est cool aussi.
Oui, je pense que pour les fans... Et donc, en plus, il y aura des jeux. Alors, je m'y connais pas trop en jeux vidéo, mais j'ai entendu parler de... Je sais plus, les jeux de guerre.
Call of Duty, Counter-Strike, sûrement, ce genre de choses.
Alors, j'ai peu d'informations concernant la venue de potentiels auteurs de manga, en revanche, mais il y aura des livres à vendre sur de nombreux stands avec des séances de dédicaces d'illustrateurs. Pour les tarifs, c'est 18€ le pass d'un jour, 24 pour les deux jours, et pour les enfants de 6 à 11 ans, 9€ la journée et 12 pour le pass de jour. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans. Autre information, pour rester un peu dans l'univers manga, la maison d'édition indépendante Omake Books, créée en 2010 par Florent Gorge, auteur, traducteur et cofondateur des éditions Pix & Love, a cessé son activité en octobre 2025. Et d'ailleurs, cette dernière année a été assez compliquée. Il y a eu peu d'activités sur les réseaux sociaux et de nombreux ouvrages ont été soldés sur leur site internet. Omake Books publiait des ouvrages dans les domaines du jeu vidéo, cinéma, séries et culture japonaise. Et via son label Omake Manga, créé en 2019, a été publiée une importante collection de mangas. Pour les plus connus, on peut citer La Lame du Samouraï, Bloody Cruise ou encore Défiguré. Donc on souhaite à Florent Gorge du courage dans ce moment un peu compliqué et on espère le revoir sur d'autres projets à l'avenir.
Ouais, c'est un monsieur qui avait beaucoup de projets, qui avait fondé cette maison d'édition parce que il a vécu au Japon, il a toujours défendu le Japon, il a bossé chez Game One et compagnie. Et du coup, c'était aussi l'occasion, lui, de mettre en avant des titres qu'il faisait kiffer. Voilà. Et qui parlait aussi de jeux vidéo. Donc, ce sera l'occasion de voir la suite.
C'est ça. Et c'est tout pour les actualités du jour, donc.
Et c'est tout pour les actualités du jour. Comment dire, est-ce qu'on se fait un petit peu de rétrospective et après on parle avec Dave et on finira la rétrospective après?
Ouais, parce qu'il y a de quoi faire. On peut faire deux sessions. Deux sessions, ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de choses.
Ok. Par quoi tu veux commencer?
Bah alors déjà, la BD Rock, effectivement, c'est quand même un petit peu spécifique. Quand je parle de BD Rock, c'est soit que il y a beaucoup de biopics, on va en reparler. Il y a aussi des histoires dont le rock peut être un ingrédient, une toile de fond ou l'argument principal du récit. Mais voilà, la BD Rock, c'est un terme très générique que j'emploie pour désigner tout ça. On peut commencer par les quatre. Alors juste, c'est vraiment un petit rappel parce que on va pas revenir dessus sur les quatre BD que j'ai déjà chroniqué dans l'émission. Donc que tu peux montrer au fur et à mesure. Donc il y avait Rock'n'Roll Suicide. Mes mémoires étant défaillantes, si tu peux me redire pour pas que j'ai Louise Laborie de mémoire.
Louise Laborie, voilà. Édition Sarbacane.
Donc, ça je l'avais déjà chroniqué. Donc si je l'ai chroniqué, c'est que c'est bien. Donc je reviens pas dessus. Voilà.
Éventuellement deux lignes.
Oui,
même
deux mots pour dire que c'est l'histoire d'un jeune groupe qui essaye de percer et qui joue dans des troquets restaurants de bord de mer là où il habite. Et puis c'est un peu compliqué c'est l'argument principal du récit avec Rock'n'Roll le Suicide, c'est l'évocation d'un titre de David Bowie dont on reparlera plus tard. Donc ensuite il y a Paul McCartney, je me rappelle plus exactement du titre du sous-titre.
La résurrection de James Paul McCartney 1969-1973.
Voilà, donc là comme je l'avais expliqué, c'est un ouvrage passionnant d'Hervé Bourris sur la façon dont McCartney s'est sorti de la séparation des Beatles qui l'avait beaucoup affecté. Et de la création des Wings, qui va devenir un des plus grands groupes des années 70. Voilà.
Publié aux éditions Casterman.
Absolument.
J'essaye de faire ça correctement.
Ensuite, on a les héros. Les héros du peuple sont immortels. La cavale de Gilbertin. Donc l'histoire d'un punk dans la grande époque du punk alternatif dans les années 80 en France, qui a également commis un braquage et qui s'est retrouvé en cavale pendant 30 ans en Espagne, au Portugal, pour échapper à sa condamnation et qui finalement, je dis pas tout, mais je l'avais déjà chroniqué. Et donc c'est une évocation de...
N'hésitez pas à réécouter les chroniques qui ont déjà été faites dessus.
Ouais. Absolument. Donc c'est de Wari, Stéphane Wari, et donc qui est un auteur qui a déjà fait des BD sur le thème du rock. Donc c'est un très très. J'aime beaucoup son dessin aussi. Donc voilà.
Très très cool.
Et puis le dernier que j'avais chroniqué, c'était Rockabilly de Rodolphe au scénario et de Stéphane Dubois, donc une BD assez classique sur une forme de rock assez classique. Donc le Rockabilly, ça se passe dans les années 50 dans un petit bled américain avec l'arrivée d'une superbe jeune femme qui vient de se marier avec l'aîné d'une famille de fermiers. Et dont le deuxième frère, lui, joue du rock'n'roll, joue du rockabilly et rêve de devenir une rockstar. Donc voilà, il y a ça sent le sud, la sueur, ça sent le rock'n'roll et c'est un bel exercice de style, très très bien dessiné, très très classique, beaucoup de classicisme. Mais c'est ce qui fait justement qu'on adhère complètement au bouquin parce qu'il y a le graphisme est vraiment super. Donc voilà pour les quatre que j'avais chroniqués. Et puis,
est-ce que tu veux commencer sur d'autres derrière?
Oui, on peut faire juste la deuxième pile, on va dire. Voilà, c'est l'occasion d'évoquer ce que font les éditions Petit à Petit, dont j'aurai l'occasion de reparler. Je ferai une chronique sur tout ce qu'ils ont fait et ils sortent quelques docu BD tous les ans. En général, c'est autour d'un artiste ou d'un groupe de rock. Là, on voit sur la pile Eric Clapton, dont Eric Clapton is God, qui a la particularité, c'est assez original, par rapport à ce que font les éditions Petit à Petit, qui normalement, d'habitude, font... c'est un collectif de dessinateurs et un scénariste qui illustre en BD le biopic en fait de l'artiste ou du groupe. Et là pour Eric Clapton, c'est un seul et même dessinateur, El Ciento. Donc mais je reparlerai des éditions Petit à Petit, donc parce que du coup c'est une formule qui jure un peu avec ce qu'ils font d'habitude. Et ça raconte l'histoire de Clapton. Alors vous voyez que en fait on a toujours une alternance entre une partie dessinée qui annonce ce qui sera commenté avec un texte qui reprend ce qui a déjà été dessiné par chapitre. Et donc on apprend plein de choses, c'est très documenté, très didactique, c'est très agréable à lire. Et voilà, bon, puis Eric Clapton, on ne le présente plus, mais on s'apercevra qu'il a eu quand même une vie assez compliquée, assez tourmentée, et que maintenant il a trouvé la sagesse et la sérénité, mais ça n'a pas été toujours le cas pendant la première partie de sa carrière notamment. Voilà. Et donc les éditions Petit à Petit ont également cette année édité une biographie de Motorhead qui est là ici. Donc pareil, même formule, mais cette fois-ci donc des chapitres avec dessiné puis ensuite du texte qui reprend ce qui a été dessiné pour présenter le biopic. Sauf que là on est sur la formule classique des éditions Petit à Petit, à savoir un ou deux scénaristes et un collectif de dessinateurs. Donc là, bon, bah, Motorhead, on ne présente plus. C'est un des très 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 grands groupes du heavy rock, voilà, qui fait l'unanimité aussi bien dans tous les styles de métal. Et c'est un groupe culte et ça raconte son histoire. Et puisqu'on parle de Motorhead, on a également il est sorti un recueil d'anecdotes, toujours aux éditions Petit à Petit, de rockstar ou de d'artistes de rock qui ont côtoyé Lemmy Kilmister, donc l'âme du groupe Motorhead. Et croyez-moi, c'est pas triste, puisque c'est quelqu'un qui était très 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 rock'n'roll dans sa façon de vivre et d'être, mais qui était aussi un gentleman au-delà des apparences. Et c'est un certain nombre d'auteurs de rockers qui l'ont côtoyé, comme Joan Jett, Dave Grohl qui fait Dave Grohl, Foo Fighters, hein, qu'on ne présente plus, batteur de Nirvana, qui fait la préface, et c'est Ozzy Osbourne qui fait la postface. Donc voilà. Donc là,
bien encadré.
Voilà, c'est oui, bien encadré avec plein d'anecdotes. Ne faites pas ça chez vous. C'est strictement réservé aux professionnels. La vie de Lemmy Kilmister, c'est quand même quelque chose. Et puis on termine ce tour d'horizon des éditions Petit à Petit avec Serial Rockers. Donc là, c'est pas un biopic, c'est des anecdotes bien croustillantes Mais on est dans le même esprit que celui d'avant. Des anecdotes bien croustillantes de rockers très très connus comme Keith Richards, Chuck Berry, David Bowie, et ainsi de suite, qui ont fait des choses pareilles. Vous ne faites pas ça chez vous. C'est vraiment le rock and roll way of life. Donc sex, drugs and rock and roll. Donc il y a beaucoup de choses. Là, pareil, c'est un collectif de dessinateurs avec un scénariste aux manettes. Et puis pour être exhaustif, je les ai pas amenés, mais il y a également des biographies en docu BD aux éditions Petit à Petit sur U2 et sur Cure qui sont sorties en 2025. Donc voilà, il y a de quoi se cultiver et de se faire une solide culture rock parce qu'ils en ont sorti plein d'autres, mais je ferai une chronique spécifique là-dessus un de ces jours. Voilà. Perfect. Pour la première, le premier set, la première partie du concert.
Eh ben ça c'est plutôt cool tout ça. Ce que je te propose c'est qu'on se fasse une petite pause musicale avec un petit truc qui devrait te plaire si je ne me trompe pas. Je te propose, si j'arrivais à mettre la main dessus, là, celle-là, ça devrait être pas mal. Un petit Ace of Spades.
Ah bah,
allez,
bien vu.
Allez, on se retrouve.
Quel à propos.
On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. Allez, vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours la case de Seb. On vient d'écouter un petit Ace of Spades de Motorhead. Un morceau que bien. Hein.
Un morceau pour les romantiques.
Oui, on peut dire ça comme ça. Bon, en tout cas, ça envoie bien. C'est cool.
Ah oui, c'est le but.
On va appeler notre interview.
Ça.
On est de retour d'ici quelques minutes, le temps que la technique se lance.
Allez, Dan, est-ce que tu es avec nous?
On t'entend pas, Seb, je pense.
Dan, est-ce que tu es avec nous?
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour. Alors, tu es avec nous pour parler de ton album qui vient tout juste de sortir, c'est tout frais. Hein. Mickey,
oui, tout à fait.
Et le roi des pirates, publié aux éditions Glénat en collaboration avec Joris Chamblin.
Exactement, ouais, il est sorti il y a 10 jours.
10 jours, c'est tout frais.
Ouais.
Par quoi tu veux commencer? Est-ce que tu veux juste nous présenter un peu l'histoire ou d'abord la genèse de ce bouquin?
On peut parler de l'histoire. C'est une aventure de Mickey. Donc Mickey est le roi des pirates qui raconte l'histoire, une histoire assez classique hein, dans l'univers Disney. Picsou s'est fait voler son sou fétiche.
Ça lui est arrivé 50 fois, c'est ça?
Voilà. Et donc Mickey part un peu à l'aventure pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que il a perdu son sou, mais ça a une importance dans la ville de Londres où se situe l'histoire. C'est-à-dire que d'un coup tout l'empire de Picsou commence à s'effondrer, il commence à dépenser n'importe comment, fermer des usines et tout. Et donc les gens ne comprennent pas. Mickey essaye d'en savoir un peu plus, part à l'aventure, une aventure qui va le mener dans les Caraïbes, où la piraterie a été relancée par un mystérieux pirate qui en a après les trésors de Picsou.
Mickey qui est un reporter hein, dans cette version.
Exactement, Mickey, on a voulu le ramener un peu à la source, donc il est journaliste. Il travaille pour un torchon qui s'appelle le Charognard et en fait voilà, chacun des héros a un petit peu un poste différent. Dingo est un majordome, ce qui est complètement de la science-fiction hein, parce que qui confierait le rôle de majordome à Dingo? Et puis Donald, ben il travaille sur le port vraisemblablement, donc ça doit être un marin.
Bon, marinière, ça va, il avait déjà le costume.
Exactement. Oui, on a gardé des petites choses, des codes couleurs en fait, parce que l'action se passe au 19e siècle. On est en 1850 et donc un peu à la Dickens hein, dans cet esprit-là de révolution industrielle. Voilà. Et puis, mais on voulait quand même que les gens déjà reconnaissent les personnages. Donc effectivement, les codes couleurs sont là. Et puis en fait les personnages voilà partent de toute façon à l'aventure, donc c'est vraiment une vraie aventure de Mickey avec Dingo, avec Donald, avec Pluto bien entendu, il y a toute la bande, Minnie, Daisy, Picsou, Clarabelle, Horace, ils sont tous là.
Donc si on est déjà familier en fait de l'univers de Mickey, on n'est pas dépaysé.
Non, voilà, on est vraiment à la maison.
Si on connaît pas Mickey par contre, ça passe aussi tout seul crème, hein, y a pas de problème.
Mais il y a des gens qui connaissent pas Mickey encore.
Je sais pas.
En fait, c'est 100 ans dans 3 ans quand même. 2 ans. Donc non, je pense que normalement, voilà, tous les gens qui ont grandi avec le journal de Mickey, avec les dessins animés Disney, comme c'est mon cas dans les années 70, 80, 90, on a eu les grands classiques Disney et nous, on a essayé d'y rendre hommage. Pour nous, cet album avec Joris, c'est vraiment un cri du cœur à cet univers très classique des Disney. C'est un hommage à peine déguisé au Noël de Mickey, à Basil le détective privé, les Aristochats, les 101 Dalmatiens. Il y a plein de petites références ici et là dans l'album pour que les lecteurs puissent aussi s'amuser à reconnaître des personnages. Voilà, c'est vraiment un hommage à l'univers Disney en général, quoi.
Ouais, là où il y a dans cette collection, il y a d'autres ouvrages en fait qui s'inspirent de l'univers Disney, tout en s'en différenciant. Là, vous êtes vraiment dans l'hommage, en s'en rapprochant au plus proche, quoi.
C'est ça, voilà. On voulait vraiment. Alors, c'est pas se différencier des autres albums. C'est vraiment plutôt vraiment rendre hommage, voilà, à l'univers avec une aventure qui est faite sur mesure pour cette collection. C'est un gros morceau, c'est 80 pages. C'est une histoire qu'on n'aurait jamais pu passer dans le journal de Mickey, Picsou géant, alors que Joris, par exemple, a déjà écrit des histoires pour le journal de Mickey. Voilà, mais c'est forcément des formats un peu plus courts. Là, c'était l'occasion idéale de se retrouver sur un gros format et proposer une aventure épique au lecteur.
Tu mentionnes Joris, donc qui est scénariste sur l'ouvrage. Je sais que Mickey, c'est quelque chose qui te tenait à cœur. C'est toi qui allais le chercher en lui disant, écoute, je veux faire un truc avec toi, ou c'est lui qui est venu te chercher? Comment ça s'est passé un peu cette collaboration?
Alors en fait, on s'est retrouvés tous les deux. C'est-à-dire que Joris, moi, je le connais depuis avant ses débuts, tout simplement. Il était dessinateur. Il était dessinateur et scénariste dans un fanzine à Toulouse. Moi, je l'ai rencontré sur un festival où je dédicaçais. Il est venu me voir, il m'a présenté ses travaux. Et puis, on s'est bien entendu. Je lui ai proposé qu'on travaille ensemble pour l'Enfeust Mag, le magazine dans lequel BD dans lequel je travaillais à l'époque. Ça n'a pas pu se faire, mais j'ai vraiment essayé, voilà, de le pousser là-dedans. Et puis en fait, ben très vite, il a signé Cerise. Alors attention, je dis pas que c'est grâce à moi, hein, pas du tout. Hein. C'est juste, ça s'est passé en même temps, voilà. Et je pense que il a jamais oublié. Après, parce que Cerise, ça a été un carton d'édition. Ah. Il a jamais oublié que, ben en fait, genre un an avant. J'étais là, j'avais cru en lui avant le succès, et en fait, ben, on est toujours resté en contact. Il s'avère que c'est un énorme fan de Disney. Il va à Disneyland lui aussi, moi c'est mon cas aussi. On a beaucoup consommé de presse, de presse Disney, et donc on s'est retrouvés autour de ça très vite. Et puis ben, quand on a su que Glenna avait récupéré les droits en 2016, et ben on s'est dit, et si on en faisait un ensemble? Voilà, depuis le temps qu'on a envie de travailler ensemble, est-ce que c'est pas le moment? Et voilà, 10 ans plus tard, il est là.
Il s'est fait attendre.
Un peu de temps. Ouais. Un petit peu. Il a fallu en fait qu'on se cale. Déjà, on avait des plannings un petit peu chargés, lui et moi. Et puis surtout, on voulait pas se presser. C'est-à-dire que moi, en 2016, quand on a commencé à en parler de ce projet-là, même avec Glenna, hein, c'est-à-dire que Glenna savait que voilà, dès 2016-2017, qu'on voulait faire un Mickey chez eux, et eux, ils étaient partants. Mais moi, j'estimais ne pas avoir ce qu'il fallait à ce moment-là. Je me sentais pas prêt, j'avais pas le dessin, j'avais un truc en tête et j'arrivais pas à le faire. Donc je me suis entraîné pendant des années, voilà, et j'en ai profité pour avancer d'autres projets. J'ai fait en particulier une série qui s'appelle Sous les arbres, qui est déjà un hommage à Disney, plutôt Winnie l'ourson, Robin des Bois. Et puis ça m'a permis, en fait, cette série, ça m'a permis de tester plein de couleurs différentes, parce qu'en fait c'est une série sur les saisons, et je m'en suis vraiment servi comme exercice pour essayer de trouver, voilà, quelles couleurs fonctionnent, quelles sont les techniques, tout ça, pour arriver à faire des scènes de jour, des scènes de nuit, avec une technique de couleur un peu particulière que je voulais absolument appliquer au Mickey. Donc je me suis entraîné sur cette série-là, et puis une fois que la série était finie, j'ai estimé que j'étais prêt, donc j'ai pu commencer le Mickey, quoi. Et là, ça a pris 3 ans.
Ah oui, ça commence à faire. Sachant que j'ai eu la petite confiance, il y a aussi un outil technique qui t'a permis de faire quelque chose que tu n'arrivais pas à faire avant.
Un crayon. Oui, un feutre. C'est un feutre. Ouais. Ça fait des années que je fais tous mes albums au crayon Bic. Voilà, crayon bille, le crayon bille le plus simple possible. Ce crayon, il est super, hein, je l'utilise encore aujourd'hui pour mes croquis. Mais pour mes planches de BD, pour mes pages, il manque de rondeur. J'arrivais pas, sur mes albums précédents, à rendre exactement les volumes que je voulais pour faire un truc un petit peu plus généreux, un peu plus rond. Voilà. J'avais la main trop lourde à force de faire du crayon. J'avais la main trop lourde pour utiliser le pinceau comme les grands maîtres de la bande dessinée. Et puis un jour, un copain auteur est revenu du Japon avec ce feutre magique. Et il m'a dit, voilà, essaye ça. Et ça s'appelle, c'est un Tombow. Voilà, c'est la marque. Un Tombow noir. Et ce crayon, il est magique parce qu'il permet de faire justement des pleins et des liés, donc avoir un ancrage assez joli, généreux, des fois très précis, des fois un peu plus gras, et surtout il résiste à l'eau, donc du coup je peux faire de l'aquarelle en plus dessus, et alors là ça a changé ma manière de dessiner vraiment du jour au lendemain. Les planches ont pris en ambition, quoi.
Et là tu as quasiment répondu déjà à la question qui arrivait. Au niveau technique, tu fais que du traditionnel?
Oui, que du traditionnel, je dessine sur papier, il y a que les couleurs que je fais en numérique parce que je suis pas très bon coloriste. Donc je l'ai fait en numérique, mais en plus sur une vieille version d'un logiciel de couleur. Donc quand les copains pros me voient travailler, ils sont catastrophés parce que j'utilise vraiment voilà, des vieux outils. Je travaille sur du papier avec des vrais crayons et j'utilise des vieux ordis pour faire des couleurs. Donc voilà, mais ça fonctionne. À la fin, on voit pas la différence. Moi, c'est vrai que je suis très attaché au dessin papier, tout simplement parce que je trouve que je passe suffisamment de temps, comme tout le monde, sur les écrans. Et quand je dessine, c'est vraiment une sorte de parenthèse. C'est-à-dire que le temps, il fonctionne pas du tout pareil quand je suis sur papier. Et puis bêtement, ouais, j'ai beaucoup plus de plaisir à dessiner sur mes feuilles. Pendant ce temps, je suis pas sur les réseaux sociaux, je suis pas devant un écran et tout ça. Je suis en train de créer quelque chose. Et puis il y a aussi ce côté le plaisir de pouvoir feuilleter après les choses. C'est vrai que quand on dessine en numérique, on se retrouve avec des fichiers sur son ordinateur, donc c'est aussi palpitant que d'avoir des photos sur ordinateur. On les regarde quand même vachement moins que quand elles sont dans un album photo papier. Et voilà, et ben là, c'est pareil pour mes croquis, pour mes planches. Je suis vraiment content de pouvoir feuilleter mes dessins, pour pouvoir les montrer aussi aux gens. On le voit de toute façon pendant les rencontres festivals, les gens préfèrent avoir des choses papier plutôt que de regarder un truc sur mon téléphone, quoi.
Ouais, et puis ceux qui te connaissent déjà ont eu l'occasion de financer ce que tu avais appelé le DevBook. C'est des carnets de croquis bien épais, bien remplis, où on pouvait effectivement profiter de tes errances graphiques à ce moment-là.
C'est ça. C'est vraiment, ça continue. Là, je l'ai sous les yeux, mon carnet de croquis continue de se remplir. Voilà, tant que je peux dessiner sur papier, tant qu'il y a du papier et des crayons, je pense que je vais rester là-dessus. Je me vois vraiment pas passer en numérique. Encore moins aujourd'hui avec ces nouveautés un peu catastrophiques comme l'IA par exemple. Plus on avance là-dedans, plus j'ai envie de revenir au papier, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, je prends le chemin inverse. Peut-être que dans quelques années, j'irai faire des BD sur des grottes avec mes mains, je sais pas. J'ai vraiment l'impression d'être un dinosaure, quoi.
Ouais, c'est rigolo parce que t'es pas si vieux que ça pourtant, hein.
Non, mais écoute, mon corps me rappelle un peu que les années passent.
Est-ce que tu as d'autres projets? Enfin, est-ce que déjà, là, ça fait 10 jours que c'est sorti. Est-ce que tu as eu des retours? L'accueil public est comment?
Alors, l'accueil, il est très très chaleureux pour l'instant. Je pense pas que ça va devenir catastrophique. Donc, on va dire que l'accueil est très chaleureux. Que ce soit les lecteurs ou les libraires, ils sont ravis. Il y a beaucoup de coups de cœur libraires. Beaucoup de bonnes critiques sur les sites spécialisés. Et puis, ce qui fait le plus plaisir, c'est beaucoup de messages sur les réseaux, de gens qui m'envoient des messages et qui me disent qu'ils ont eu l'impression d'avoir 10 ans en lisant l'album. Et qu'insiste beaucoup là. Ouais, parce que l'album, il a été fait pour ça. C'est-à-dire que nous, on l'a vraiment écrit avec Joris, on l'a écrit comme l'adaptation en BD d'un film Disney qu'on aurait aimé voir dans les années 80. Donc en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand des gens nous écrivent aujourd'hui en disant qu'ils l'ont lu avec leur gamin et qu'ils avaient l'impression d'avoir 10 ans, pour nous, c'est le meilleur compliment.
Mission accomplie.
Voilà.
Est-ce que tu imaginais avoir 10 ans en le créant, toi, avec Joris?
Alors non, parce que ça a été beaucoup plus compliqué. La création, on n'a pas 10 ans pendant la création. Non, là, pour le coup, c'est un peu sérieux. Non, par contre, j'ai vraiment essayé d'avoir toujours l'envie quand je faisais mes pages. C'est aussi pour ça que ça a pris du temps. Faire une BD, ça prend du temps. Il y a des jours où on a envie, des jours pas. Et sur cet album-là, j'ai eu la chance, le confort de pas être obligé de travailler tous les jours dessus. C'est pas le cas de tout le monde, il faut qu'on rende notre travail et tout. Donc là, on n'avait pas d'obligation de rendu, on n'avait pas de délai. Donc j'ai vraiment pris le temps. on va être honnête, j'ai été très feignant aussi. Mais par contre, j'ai fait les pages quand j'en avais envie. Donc vraiment chaque page, il y a rien qui a été bâclé. L'album, quand il est parti, ça a été, c'était vraiment le mieux que je pouvais faire à ce moment-là. Maintenant, je vois les erreurs. parce que l'album je l'ai rendu il y a 2 mois, je me dis bon bah ça c'est vrai, mais sur le moment voilà, je l'ai pas laissé partir sans apporter des dernières corrections de dernière minute. Voilà, on voulait, depuis le temps qu'on voulait le faire, on voulait vraiment qu'il soit parfait, donc je l'ai vraiment fait avec énormément d'envie. Et puis ben maintenant voilà, on est un peu soulagé, on voit que les gens l'apprécient, donc ça fait plaisir.
Bruno, t'avais une question?
Oui, bonjour Dave, comment vas-tu?
Bonjour, ça va très bien toi.
Écoute, je suis très heureux de te souhaiter la bonne année et de te féliciter pour ce superbe album. Et j'avais une question double en fait. T'as été confronté, j'imagine, parce que c'est pas n'importe quoi de reprendre Mickey, à des contraintes graphiques, et puis j'ai cru comprendre aussi des contraintes un peu déontologique. Il y a des choses que avec Mickey on peut pas se permettre de faire ou de présenter ou de raconter. Enfin voilà. Donc si tu peux nous en dire 2 mots.
Alors moi j'ai pas été trop confronté à ça parce que je suis un bon petit soldat et je suis vraiment un amoureux du personnage. Donc quand on m'a proposé de le faire, quand Glénat nous a confié l'album avec Joris, ça nous semblait évident de respecter l'univers. Ça n'a pas été le cas de plusieurs auteurs dont les projets n'ont pas été faits, hein, en fait, au moment où on leur propose, ont envie de tordre un peu le personnage en se disant Mickey, c'est aussi le symbole du capitalisme et tout ça. Voilà. Là, c'est pas le cas. C'est de toute façon Disney surveille. Disney nous laisse pas faire n'importe quoi. Donc on a écrit le Mickey qu'on avait envie de lire. Donc on l'a pas tordu. Les seules petites choses, effectivement, sur lesquelles on a essayé de jouer, c'est de cacher des références. Le Disney nous avait dit, Glénat en tout cas nous avait prévenu, on n'a pas le droit d'utiliser des personnages Disney autres que Mickey, Donald et toute la bande, parce que c'est pas pour des histoires de copyright et tout ça, c'est pas les mêmes contrats. Et moi, ce que j'adore dans les films Disney, c'est quand ils cachent des trucs. Donc j'en ai caché partout. Voilà. Et Disney en a vu quelques-uns, donc ils m'ont fait faire des retouches. Ils en ont vu 6 sur un album de 80 pages. Autant vous dire qu'ils en ont pas vu beaucoup. Voilà, il y en a vraiment partout, plein de références cachées. Et c'est marrant parce que les gens qui ont lu l'album là, en parlent beaucoup justement, que c'est très amusant pour eux de reconnaître de temps en temps un personnage. Et je pense que ça pèse aussi dans la balance sur le côté hommage. Ils voient que l'album a été fait vraiment par des fans, pour des fans, mais pas que. C'est-à-dire que on peut apprécier l'histoire, l'aventure, même si on connaît pas l'univers Disney, on n'a pas besoin de toutes les références. C'est juste, voilà, si on connaît les dessins animés, de temps en temps, on va sourire en voyant un personnage à l'arrière-plan, quoi.
Ben parfait. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter, Bruno?
Non, c'est super. On va pouvoir mener l'enquête et repérer toutes les références.
Moi, je rêve d'un petit guide explicatif, justement, avec les petits personnages cachés. Mais ça, je pense que t'as pas droit.
Alors non, même le scénariste, je lui ai pas envoyé. Moi, j'ai fait la liste pour pas oublier.
Ah, super.
Donc moi, j'ai les réponses. Voilà. Mais non. On évite. Là, je vous en parle entre vous, mais j'espère que Disney nous écoute pas.
Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous écoutent. Ça veut dire qu'on a des bons auditeurs, mais
ouais, ils sont loin. Normalement, ils sont loin. Bref, oui, c'était l'occasion de faire vraiment un album hommage et puis un peu jeu aussi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien l'idée que ce soit un album. On le lit une première fois pour l'aventure. On reconnaît un ou deux personnages, donc on le relit pour trouver les personnages. On vient me voir pour me dire après un festival, j'ai vu un tel, et je fais oui, mais est-ce que vous avez vu les autres? Et là, ils commencent à rechercher les autres. Donc c'est un bouquin qu'on peut relire plein de fois. J'espère en tout cas qu'il est assez copieux et généreux pour les lecteurs, quoi.
Alors, je ne spoil pas, mais il y a une grande ouverture à la fin. Est-ce qu'il y a une suite de prévues déjà?
Alors, pas du tout. Ça a été une question que je me suis posée quand je suis arrivé à cette page-là. Ça faisait déjà quelques temps. Le storyboard était prêt 3 ans avant l'album, donc ça faisait 3 ans que moi j'avais la fin avant tout le monde. Et en fait, pendant 3 ans, je me suis demandé est-ce qu'on garde cette fin-là, parce qu'effectivement, il y a ce côté un peu fin ouverte qui peut amener une suite. Mais la collection, c'est des one shots. c'est que des histoires complètes. Et le nôtre ne fait pas exception. C'est une histoire complète. En fait, ce que, sans spoiler ce qui se passe, c'est en fait l'histoire se termine, voilà. Mais pour les personnages, l'aventure continue. Mmh. Voilà. Eux ont résolu toutes leurs histoires dans l'album, et donc maintenant c'est un peu l'aventure avec un grand A quoi qui commence pour eux, mais notre histoire à nous est terminée. Le début, c'est Picsou s'est fait voler son sous-fétiche. Bon, on spoilera pas grand chose en disant qu'à la fin il l'a récupéré.
Hein, quand même. Quand même, l'honneur est sauf.
Voilà, mais du coup l'histoire est terminée.
Ouais, ça me fait un peu penser, si tu me permets la comparaison, j'ai lu moins de Disney que toi, très certainement étant jeune, mais des fois j'avais un super Picsou géant où je n'avais pas complètement toute la fin de l'histoire, et ben, je l'imaginais, donc là on imagine que les lecteurs vont pouvoir imaginer la suite.
Mais c'est ça, c'est une fin ouverte dans ce sens-là, je peux pas trop en raconter, mais il y a ce côté sur le fond de l'histoire, parce que non, le fond de l'histoire, c'est Picsou s'est fait voler son sou, on part à l'aventure pour le chercher. Mais le fond de l'histoire, c'est vraiment ramener un peu le sentiment de magie, le sentiment d'aventure dans le cœur des personnages de l'histoire. Clairement, ils sont à une période où tout est sombre. Tout est mécanisé et du coup on peut plus rêver quoi. Voilà. Et cette histoire là, elle est faite pour que les personnages retrouvent cette envie là, mais aussi que les lecteurs retrouvent un peu l'envie d'aventure, le rêve. C'est aussi pour ça qu'on a laissé cette fin ouverte, parce que l'histoire est bouclée, mais on peut les personnages vont continuer eux de voyager et puis le lecteur avec quoi.
L'aventure continue. Merci beaucoup Dave. Avant de nous quitter, où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux, des futurs festivals ou...
Alors sur les réseaux, Instagram, l'adresse s'affiche en bas de votre écran. et puis
Dave en festival, le dessineux, hein, c'est ça.
Voilà, Dave tiré du bas le dessineux. Mais s'il tape juste Dave espace le dessineux, il trouve. J'apparais normalement en premier. Et puis en festival, là, je vais faire une tournée les 3 prochains mois. À partir de maintenant, elle a commencé, où je suis parti tous les week-ends par Mons et par Vaud. Pas de dédicace à Angers. Mais je serai aux alentours, je serai à Cholet, je serai à Nantes, Montaigu, La Roche pour les plus loin. Et puis voilà. Et d'autres dates sur Paris et ailleurs, quoi.
Oui, t'as fait une publication sur Facebook avec toutes les dates de mémoire.
Oui, elle est aussi sur Insta, il y a plus de gens sur Instagram. Mais oui, il y a toutes les dates du premier trimestre et après je m'arrête parce qu'il faut que je travaille. J'ai un autre album à rendre.
Est-ce que du coup on peut avoir une petite indiscrétion sur cet album à rendre ou pas?
Oui, je suis en retard, voilà. c'est un album, ce sera un album de Noël qui doit sortir en fin d'année, donc je peux pas trop me rater sur la date de rendez-vous. Ouais. Et là je suis en train de le storyboarder. Là, il est écrit, il faut que le storyboard. J'ai la moitié de l'album, presque la moitié de l'album de storyboarder. Donc j'aimerais bien le finir d'ici la fin du mois de janvier, pour pouvoir commencer les pages dès février, puisqu'il faut le rendre fin juin.
Ah oui.
Et avec la tournée Mickey, ça va être très compliqué.
Voilà. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. On te réaccueille dans l'émission dès la prochaine sortie de l'album.
Eh bien, ce sera pour fin septembre, octobre, pour un album donc de Noël aux éditions du Lombard.
Voilà. Eh bien, le rendez-vous est pris.
Merci à vous.
Je te dis à bientôt.
Bonne soirée, salut.
Merci, au revoir,
bonne soirée.
Hop, on va se refaire une petite pause musicale si vous permettez. Je suis pas fan d'IA, mais j'ai découvert quelque chose il y a pas très longtemps. Des fois, ça peut avoir pas mal d'aide. Donc, on va pas être dans le domaine du rock, hein, loin de là. Mais il y a un artiste qui est en train de percer et qui fait beaucoup de choses. C'est un homme qui est handicapé, qui écrit beaucoup grâce justement à des outils. Et il a composé tout un album par l'intermédiaire des outils qu'il utilisait. Et il a confié ses textes à une IA qui les chante grâce à un producteur. Et je trouve que dans ces cas-là, c'est un outil qui est, ma foi, fort intéressant à utiliser. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire écouter le jour où je suis né d'Ilias Dekelov.
Le jour où tout commence, parfois c'est pas un cri, c'est un combat. Et moi je suis né dans la tempête. Le jour où je suis arrivé au monde, la tête en premier sur cette terre ronde, ce fut un choc puissant qui me laissa inconscient. Tu étais derrière les portes sans doute, ta présence d'esprit guida ma route. Un masque à oxygène sur la figure, vers l'hôpital de Mozdok à vive allure. L'attente parut interminable, seul face au médecin sur cette table. Il était 2h du matin, tu as fait des pieds et des mains afin de me garder en vie. Tu m'as sauvé la vie. L'hospitalisation se passa bien. Ma tante fut mon ange gardien. J'ai repris contrôle du cœur et des poumons pour faire fuir, ouais, pour faire fuir tous les démons. Et de cet événement, je vois mieux, je vois précieux. La famille, c'est le trésor le plus valeureux. Le jour où je suis né, j'ai compris que rien n'est sûr, que la vie tient sur un fil, mais l'amour, c'est l'armure. Ouais, j'ai compris mieux. J'ai compris mieux, la famille est le bien le plus précieux. Je suis né dans la lutte, je suis né dans l'urgence, entre la vie et la mort, entre douleur et chance. Ta force et ton courage ont parlé pour moi, alors que j'avais même pas encore trouvé ma voie. Ma tante veillait sur moi comme un ange en mission, dans ce monde trop bruyant pour ma première respiration. Elle tenait ma main, elle murmurait, tiendra bon. Elle chassait les ombres, elle repoussait les démons. Chaque souffle gagné, c'était une victoire. Chaque battement repris, un chapitre de mon histoire. J'étais fragile, petit, mais entouré de lumière. Et c'est grâce à eux que j'ai défié la poussière. J'ai repris contrôle du cœur et des poumons pour faire fuir, ouais, pour faire fuir tous les démons. Et de cet événement, je vois mieux, je vois précieux. La famille, c'est le trésor le plus valeureux. Le jour où je suis né, j'ai compris que rien n'est sûr, que la vie tient sur un fil, mais l'amour, c'est l'armure. Ouais, j'ai compris mieux. J'ai compris mieux, la famille est le bien le plus précieux. On survit pas tout seul, on respire grâce aux nôtres. Je suis là aujourd'hui, parce qu'ils ont donné de même les autres. La famille c'est pas un mot, c'est une force, c'est un feu. Et je l'oublierai jamais, elle a sauvé mes premiers vœux.
www.radio-g.fr.
Et oui, de retour dans la case de ça, vous venez d'écouter Ilias Dekelov et Le jour où je suis né, une chanson faite par IA, parce que quand c'est un outil, moi ça me gêne pas, et je trouve que ça marchait globalement bien, donc voilà. Au sujet, voilà. On finira la rétrospective. Donc 15 jours, Bruno, si ça te
absolument,
va bien.
Absolument, c'est mieux comme ça.
Comme ça, ça nous permettra...
beaucoup de choses à présenter.
Ouais, encore il y a au moins une pile aussi grosse que tout à l'heure. Ouais. Et là, on va confier la parole à Fabien.
Et oui,
de quoi tu nous parles ?
Eh bien, ce soir, je vais vous parler d'un auteur que j'apprécie énormément, qui s'appelle Tsutomu Nyei.
J'adore.
Ouais, moi aussi. Et de son dernier titre, donc sorti en 2025, là, qui est Tower Donjon, Dungeon. Que c'est écrit en anglais. Et on a eu le premier tome le 7 mai 2025 et le deuxième le 3 septembre. Et c'est encore en cours de parution. On est chez Glénat et on est sur des tomes qui font 160 pages pour 7,90€. Ça, c'est pour la version standard, car ils ont sorti une version, on va dire, collector un peu, hein, avec des couvertures en simili-cuir. Et j'ai malheureusement appris par mon libraire que cette version simili-cuir était prévue seulement pour les deux premiers tomes. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc, du coup, j'ai dit, tant pis, je vais prendre la version normale. Parce
ça
que,
fait mieux de la bibliothèque.
Voilà, c'est ça. Donc, du coup, Tower Donjon. Donc, dans Tower Donjon, Tsutomu Nyei délaisse la SF pure pour s'aventurer dans la Dark Fantasy. L'intrigue s'ouvre sur un drame. Un puissant nécromancien a assassiner le roi et enlever la princesse, l'emportant au sommet d'une structure colossale, apparut soudainement la Tour des Dragons. Face à l'échec cuisant de la garde royale contre les monstres qui infestent l'édifice, le royaume n'a d'autre choix que d'enrôler des paysans des villages alentours pour servir de chair à canon ou de renfort. C'est là qu'on découvre Yuva, un jeune fermier à l'allure taciturne. S'il n'a aucune formation de guerrier, il possède une force physique prodigieuse et inhabituelle qui devient vite le principal atout du groupe pour espérer survivre à cette ascension verticale cauchemardesque. Du coup, il est difficile de ne pas comparer ce nouveau titre au chef-d'œuvre fondateur de l'auteur, Blame.
Blame.
Pour beaucoup, le style actuel de Niei, qui est maintenant souvent appelé sa période blanche, marque un peu un déclin en termes de densité visuelle par rapport à ce qu'on avait l'habitude. Là oui. Où Blame nous submergeait sous des textures organiques, des câbles entremêlés, des architectures cyclopéennes saturées de noir profond, Tower Donjon propose un dessin beaucoup plus clair, presque nu. On peut trouver le trait un peu moins qualitatif, les décors sont plus minimalistes, les hachures ont laissé place à des surfaces blanches et le design des personnages est devenu plus lisse, perdant un peu cette aura viscérale et mystérieuse qui faisait sa force. Mais si ce nouveau style permet une action plus fine et une lecture moins fatigante, mais à mon sens, il sacrifie un peu l'immersion sensorielle. La tour, bien qu'immense, semble un peu moins oppressante et moins habituée que les mégastructures de ses débuts. Malgré tout, le bestiaire qui nous est proposé est très intéressant. Les monstres sont des entités ressemblant à des expériences biologiques ratées, avec des amalgames de chair, d'os et de structures minérales. Si l'on accepte de mettre le côté un peu la claque graphique de Blame, Tower Donjon reste un excellent donjon crawler. Niei n'a rien perdu de son talent pour imaginer des échelles inhumaines et des créatures au design dérangeant. C'est une quête de sauvetage classique en apparence, mais portée par l'imagination architecturale unique d'un auteur qui adore nous faire lever les yeux vers le ciel. Malgré un sentiment un petit peu mitigé sur ces deux premiers tomes, notamment graphiquement, j'ai apprécié ma lecture de ces deux tomes. La dark fantasy, ça reste un genre que j'affectionne tout particulièrement. Même si, j'avoue, pour ce style en particulier, ce genre-là, j'aime bien quand c'est plus sombre pour faire ressortir un peu ce côté dark. Mais j'ai quand même bien envie de lire la suite pour continuer à suivre l'avancée des personnages au cœur de ce donjon et découvrir ce qui se cache, je pense, derrière cette force un peu surhumaine de notre héros qui sort un peu de l'ordinaire malgré son côté très effacé.
Ça a l'air bien cool tout ça.
Ouais, c'est bien cool. J'ai un sentiment un peu, on va dire, mi-figue, mi-raisin sur l'ensemble, car j'aurais aimé un peu plus retrouver ce trait que j'apprécie énormément dans ses autres œuvres. Mais on se prend quand même au récit et on s'y habitue. Les premières pages, quand même, j'ai eu du mal à me mettre dedans. On sent tout de suite que c'est du Niei malgré tout.
Ouais.
Il a quand même une patte à lui. Mais j'ai mis un peu de temps et plus j'ai avancé dans l'histoire, plus je suis rentré dedans et plus je l'ai apprécié. Donc c'est pour ça que j'ai quand même hâte de lire la suite.
Alors moi je trouve qu'il y a quand même un gros travail sur le noir. Il a des noirs, c'est vrai, avec des noirs profonds super. Mais si tu me dis que ça c'est sa période blanche,
c'est sa période blanche, exactement.
Je connais pas.
Mais je pourrais te ramener.
Il en avait fait.
Ça doit être vraiment bien dark, hein, parce que là c'est quand même le noir est quand même bien marqué. C'est superbe. Hein.
Il en avait fait un qui était plus lumineux que ça. Hein,
c'est Apocym, ce qui était encore ouais. Plus blanc que ça. Là on est entre deux. Mais ouais, le Blame, je pourrais t'amener, si tu veux, ces grands formats, parce qu'en plus, ils avaient sorti des formats un peu A4, on va dire, avec des planches qui sont monstrueuses. Mmh. Et du coup, moi, c'est cette partie-là que j'ai le plus aimé. Mais après, comme je dis, hein, on rentre dedans, on s'y fait, et il dépeint quand même des monstres qui sont horrifiques, qui fonctionnent bien. Et donc, j'ai vraiment. Par contre, ça se lit très, très vite. C'est du Niei.
Ah oui.
Donc, du Niei, il y a pas énormément de texte. On a des pages qui sont. On découvre vraiment les textures, le design des monstres. Et puis ça se lit tranquillement. Quoi.
Alors, Blame, pour redonner quelques éléments quand même, parce que tu le dis oui. Au filigrane dans ta chronique, c'est au départ, on suit un individu solitaire qui parle pas, dans des architectures cyclopéennes, complètement noires. On sent que c'est sous terre ou on sait pas trop
on
où c'est.
On sait pas, ouais.
Mais c'est très sombre et il y a très très peu de luminosité. Et c'était des traits qui sont, là on a plus de rondeur, c'est effectivement ce que tu disais. Alors qu'avant on avait vraiment l'impression que c'était de l'encre qui était mise au stylo plume. Il y avait vraiment un côté très haché. C'était vraiment, presque on aurait pu parler de dark SF.
Oui, c'est on pourrait appeler ça comme ça. Après,
très pessimiste aussi quand même,
oui,
comme univers.
Très pessimiste. Après, Niei est très clivant aussi comme auteur. Il y en a qui adorent et d'autres qui aiment pas du tout. Hein. On est vraiment sur un style très particulier. Moi, je sais que j'aime beaucoup, mais du coup, oui, Blame, c'est plus de l'élancer, des méga structures et sans fin qui s'arrêtent jamais. Et on ne sait pas où on est et c'est à nous de, en fait, de deviner un peu ce qu'on a envie. Donc, ça ouvre pas mal de possibles.
De la même manière, pour continuer la comparaison, alors moi je l'ai pas lu, hein, c'est juste sur les petits éléments que j'ai vus, j'ai l'impression qu'il est plus sage au niveau des cadrages. On avait des grandes contre-plongées dans Blame, qu'on retrouve un peu plus posées sur des structures dans Tower Dungeon.
Ouais, et puis en plus, on peut dire aussi, j'ai vu que c'était classé en shonen. Donc ça change un peu peut-être aussi les choses.
Oui.
Dans le sens où c'est...
Les codes sont pas les mêmes.
Les codes sont pas les mêmes. Donc je pense qu'on est, c'est un peu plus sage en effet que en termes de violence notamment. Parce que du coup, il y en a, puisqu'on est quand même sur du donjon et tout ça, mais ça reste pas beaucoup plus soft quand même, malgré tout, que ce qu'on a pu voir sur ce qu'il peut faire.
Je voulais dire un truc, mais je sais plus quoi. Tant pis. Oui, si, tu sais en combien de tomes c'est prévu? Pas du tout.
Eh ben non, je ne sais pas du tout. J'ai vu que c'était encore en cours et j'ai pas vu si c'était terminé. Je ne crois pas. Du coup, pour moi, le tome 3 sort en tout début d'année, là. En France. Et par contre, au Japon, j'ai oublié. C'est pas bien, j'ai pas fait
T'as
mon travail.
T'as pas bien fait ton travail.
J'ai pas bien fait mon travail. C'est pas bien
du
tout.
Je vais regarder tout de suite.
Et du coup, ouais. Normalement, je le regarde, ça, d'habitude.
Et c'est toujours en cours et il y en a 5 actuellement au Japon.
Ok, donc ouais, c'est ça. On voilà. est toujours la série.
Les couves sont très très belles. Hein. Le rendu est vraiment bien fait.
Ouais, et pour ceux qui aiment, en effet, avec le similiclure, ça rend vraiment très bien. J'en ai vu un tome, mais ça m'a refroidi le fait qu'il y ait que les deux premiers.
Alors, c'est peut-être pas définitif, hein. Peut-être qu'ils en sortiront.
Alors, c'est
après.
Ce que mon libraire m'a dit. Ouais. Peut-être qu'en effet, ils vont se dire, finalement, on va peut-être faire tout le reste.
Sachant
ce serait
que
plutôt bien.
Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ces tomes en similicuire étaient tout à fait abordables puisqu'ils étaient aux alentours de 10 €. Ah ouais.
En effet.
Ce qui pour un bel ouvrage comme ça n'est pas dispendieux.
Et souvent c'est avec un format un petit peu plus grand.
Un petit peu plus grand. Voilà. En fait, la couve donne l'impression que c'est plus comique, grand, mais a priori ils m'ont dit que c'est toi. Voilà. Ils m'ont dit que c'était à l'intérieur à peu près la même chose. Ouais. Mais voilà. Ça rend plutôt bien, hein, clairement.
Couverture marron façon grimoire.
Ouais, ça fait penser un petit peu à ce qu'avec les œuvres de Lovecraft, ce qu'a fait Kiyun sur les Gutanabe.
Ça, c'est superbe. Ouais.
J'ai l'impression qu'ils ont débloqué un skill sur le faux simili-cuir vraiment efficace et que maintenant, on va en avoir
ils auraient tort de s'en priver. Après, faut pas qu'on ait que ça, parce que sinon, ça ferait bizarre, mais... Pour des œuvres comme Lovecraft et tout ça, ça rend
très
vraiment
bien.
Très bien parce que ça correspond à l'univers.
Donc,
puis là aussi, hein, pour le coup, parce qu'on est sur de la dark fantasy qui amène bien le truc.
Eh ben parfait. On arrive à la fin de l'émission. Ça fait longtemps que j'ai pas mis Porky, tiens. Il est où Porky?
Il est en vacances.
Porky, il est là Porky.
That's all, folks.
Je me demande si c'est pas la première fois que je l'entends dans l'émission.
C'est vrai.
Ouais.
C'est ce que je l'avais oublié dans un placard, le pauvre Porky.
Faut prendre les bonnes résolutions pour 2026.
C'est lui qui nous annonce
à chaque fois.
Ouais, c'est lui qui nous annonce la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. J'espère que vous aussi dans le studio vous avez passé un bon moment.
Oui, comme à chaque fois.
Absolument.
On a repris les hostilités du coup. En émission, sur Instagram, c'est reparti. J'ai commencé à faire des publications sur Twitter. Il faut que je mette en forme les vidéos pour les diffuser directement sur la chaîne YouTube La Case de Seb. Vous pouvez toujours suivre les lives directement sur la chaîne YouTube de Radio G. Et puis, il y aura d'autres petits trucs à venir, des petits projets qui vont démarrer normalement dans pas trop longtemps. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve dans 15 jours. Et puis, n'oubliez pas de lire. En attendant, il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi, j'ai appris à lire. Ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Nous, un petit schtoum.
fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
I should have closed my eyes, but it was so bright, so bright, so bright that I forgot about the dark. Yeah, it was so bright.